19h passé de 42 minutes sur Radio VFM. Vous êtes au cœur du débat consacré au premier tour des élections départementales sur le canton de Condé en Normandie. Pour débattre avec nous ce soir, les représentants de trois des quatre binômes. Céline Fallot-Déal qui représente le rassemblement de la gauche et de l'écologie. La conseillère départementale sortante issue de la majorité départementale Valérie Desquenne. Et le candidat d'hiver droite, maire de Val-d'Allière, Frédéric Brognard. On va évoquer maintenant l'action sociale et les solidarités humaines qui constituent la mission première du département. La politique sociale, ça représente les deux tiers du budget du département sur un budget donc de 800 millions d'euros au total. 100 millions d'euros par exemple pour avoir un ordre de grandeur sur le RSA, 186 millions d'euros pour le handicap et les personnes âgées. Ce sont des chiffres que vous connaissez évidemment, Valérie Desquenne, vous qui appartenez à cette majorité départementale. C'est Céline Fallot-Déal qui va ouvrir sur ce thème. Céline Fallot-Déal, est-ce qu'il faut aller encore plus loin demain ou est-ce que, comme le réclament certains, il faut rééquilibrer certaines lignes? Est-ce que le département fait trop sur certaines de ses compétences et notamment sur l'action sociale, ou pas assez?
Vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous détaillez bien que je ne vais pas vous dire qu'il en fait trop. Non, il n'en fait pas assez, évidemment. Déjà, le fait que, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y ait des enfants en attente de placement, ce n'est pas entendable. Et dire, bah oui, mais on n'a pas les budgets, ce genre de mission ne devrait pas être inclus dans les budgets. On devrait pouvoir systématiquement dire ce genre de situation, on les prend en charge.
Il faut donc trouver des solutions pour sortir parfois de la contrainte financière de la collectivité pour répondre aux besoins. C'est en substance ce que vous dites.
Tout à fait.
Notamment au niveau des jeunes, il y a une question qui revient souvent. On évoquait le RSA tout à l'heure qui représente, je le disais, 100 millions d'euros sur le budget du département. On pense aux jeunes de moins de 25 ans qui en sont exclus de ces RSA. Est-ce qu'il faut leur trouver des réponses demain?
Ah bien, là, Colin Delautre, donc mon binôme, étant membre de Génération S, clairement, s'il était là, il vous dirait, bah oui, le RSJ, il faut absolument aller vers cette solution. En sachant qu'au niveau national, il a été évalué à 1,2 milliard d'euros, que le département du Calvados représente grosso modo 1% de la population française, donc il faudrait 12 millions d'euros au département pour pouvoir assurer le RSJ. Ça représente 1,5% du budget 2021 du conseil départemental. On peut peut-être faire cet effort pour les moins de 25 ans.
Je vois Frédéric Brognard qui trépigne. Il conclura sur le sujet tout à l'heure. Je ne doute pas qu'il aura des choses à dire. Mais avant, c'est à Valérie Desquenne que l'on va donner la parole. Vous êtes en avance sur le temps de parole, Valérie Desquenne, puisque j'en profite pour effectivement faire un petit point sur le temps de parole. Alors c'est assez logique, c'est souvent la sortante le sortant ou la sortante attaqué sur son bilan qui doit forcément répondre aux deux concurrents qui sont en face. L'équilibre est pour le reste respecté entre Céline Fallot-Déal et Frédéric Brognard. Valérie Desquenne, est-ce que le département doit faire plus demain pour le social? S'il doit faire plus, où doit-il aller chercher l'argent? Est-ce qu'il faut rogner sur d'autres secteurs? On pense aux routes, par exemple.
Alors, effectivement, moi, je rappelle simplement que dans le secteur social, il y a, en fait, beaucoup de dépenses qui sont contraintes. Je m'explique. Le RSA, par exemple, c'est bien le département qui le paye, mais c'est l'État qui définit le montant. Et c'est exactement la même chose pour l'APA ou le PCH. Ce sont des coûts qui sont votés par l'État. Et ensuite, c'est le département qui l'applique. Donc, ces montants-là, de toute façon, aujourd'hui, ils sont incompressibles. Il faut effectivement les payer. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que petit à petit, dans les budgets, dans l'équilibre des budgets des départements, il y a quelques années, on n'était pas, comme vous l'avez très bien dit en introduction, à deux tiers des dépenses de sociales dans le budget des départements. Avant, on était plus bas. Mais aujourd'hui, eh bien, les décisions sont prises au niveau de l'État. Il faut que le département couvre l'ensemble de ses dépenses. Donc c'est déjà, effectivement, au détriment de certaines dépenses. Les routes, vous en parlez, il y a déjà eu des choix, dans le passé, de réduire le budget. Mais aujourd'hui, en travaillant sur des nouvelles technologies, en travaillant sur des nouvelles méthodes de travail, on arrive justement encore avec le département à trouver des solutions pour à la fois répondre sur le côté social et en même temps maintenir toutes les aides que l'on peut apporter au quotidien auprès des collectivités, auprès des routes, auprès des collégiens, etc. etc.
En deux mots, est-ce qu'un RSA pour les jeunes de moins de 25 ans qui en sont exclus aujourd'hui, c'est envisageable demain ou franchement ça ne pourra jamais rentrer dans les lignes?
Alors aujourd'hui, ma ligne de conduite est la suivante. On a déjà un RSA qui existe. Pour moi, il est plus important d'aider les jeunes à trouver un travail et c'est ce que l'on fait Aujourd'hui, il y a plus de 800 jeunes qui sont aidés dans le cadre de retrouver des travails en insertion ou des formations, etc. Nous, on est plus porté sur, on préfère mettre un budget sur ces, actions en termes de travail, en termes d'insertion dans la vie de tous les jours, plutôt que de passer sur un RSA où de toute façon, à un moment donné, on ne pourra plus payer.
Frédéric Brognard, je vous sentais trépigné tout à l'heure, pendant que Céline Fallodéal intervenait sur le social. Il en fait trop, le département? Il faut rééquilibrer un petit peu tout ça? Est-ce qu'il faut faire plus pour d'autres choses? Pour les routes, par exemple?
Là, on est sur le social, donc les routes, on l'abordera après. Mais l'un va aussi avec l'autre. Aujourd'hui, les moins de 25 ans, pour accéder à leurs études, vu le peu de lignes ferroviaires qu'on a pour rejoindre Caen, enfin, j'ai été aussi à la manifestation à Condé il y a 8 jours ou 15 jours, et le coût pour être étudiant en France est très élevé. Il est d'autant plus élevé pour nos territoires de Condé-sur-Noireau qu'on n'a pas de ligne majeure pour aller à Rennes, on n'a pas de ligne majeure pour aller à Caen, pour aller à Paris c'est difficile aussi. Les routes sont, voilà, il y a des efforts de fait depuis 15 jours, un mois là, mais
il y a 1 500 000 euros qui sont mis sur la 577 qui rouvre d'ailleurs vendredi soir. Oui. On rassure les automobilistes
qui n'en peuvent plus.
ça fait partie de la communication du département. Non, mais la 517, le vire le poteau ou le détournement de Condé, ça fait 30 ans qu'on entend parler dans les papiers, qu'on a ça dans les papiers. Et si je peux avoir un reproche à faire sur par rapport au binôme de sortant, c'est de ne pas avoir remis, c'est de ne pas avoir mis le métier sur l'ouvrage et d'avoir porté ça. On n'a pas eu d'écho. La région avait mis de l'argent. Voilà, c'est rester lettre morte, pardon.
Voilà. Alors je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure dans les projets.
C'est toujours facile de promettre en campagne par rapport à votre
réflexion, monsieur. Est-ce que Valérie Descaines a promis le raccordement de Vire à la 84? Est-ce que vous l'avez rangé de côté?
Je n'ai rien promis et je n'ai rien rangé de côté.
Bah alors Frédéric Brognard,
on n'entend pas parler.
C'est pas parce que vous n'entendez pas parler que ça n'avance pas.
Mais non, je vous l'accorde si vous voulez. On va dire que c'est facile. On a évoqué le...
Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour le social?
Faut reporter le social, ce qui est quand même aberrant. C'est qu'on voit certains projets sortir du chapeau au nord de Caen, et 5-6 ans après c'est financé, c'est mis en place, et les infrastructures routières évoluent. Nous, Vire le poteau, ça fait 30 ans que c'est sur le tapis. J'ai débattu longtemps avec Jean-Yves Cousin là-dessus. Le détournement de Condé, c'est la même chose. Le camp Flair. Bon, voilà, on a fait Camboulon, mais on entend plus, quoi.
Ce que vous dites, c'est que le territoire manque d'élus capables de taper véritablement du poing sur la table et de se faire entendre à Caen.
Il faut toujours se faire entendre. Enfin, moi, j'ai jamais été en réunion publique ou en conseil municipal ou en conseil d'interco pour siéger et m'asseoir et me taire. Enfin, je préfère pas venir.
Mais est-ce que ce territoire donc manque d'élus capables de porter la voix de ce territoire?
Je sais que Jean-Yves Cousin a longtemps essayé. Marc Andreau, je ne sais pas s'il essaye de son côté, mais enfin, il y a quand même 6 conseillers départementaux qui doivent s'unir, quel que soit leur parti politique, pour porter le projet. Enfin, c'est l'avenir du territoire, c'est l'avenir des entreprises, c'est l'avenir des jeunes. Mais c'est hyper important, le réseau ferré.
Mais clairement,
alors attention, les réseaux ferrés, c'est la pas région. La compétence du département. Non, c'est la région. On est d'accord.
Je sais très bien, mais on peut aussi faire du lobbying.
Alors, on n'a pas fait assez, Valérie Descaines, de lobbying, elle ou Michel Rocard, mais clairement, parce que c'est ce que vous dites ce soir, Frédéric Brognard. Si vous êtes élu demain, vous allez ramener le dossier du désenclavement routier sur la table.
Oui, bah forcément. C'est un minimum. Enfin, c'est un minimum pour représenter le canton de porter ces dossiers-là. Enfin,
ça n'a pas été fait.
J'en ai pas entendu parler. Moi, j'en ai pas entendu parler ni sur Vire, ni sur Condé, ni sur Val-d'Allière, ni sur Souleuvre. J'en ai pas entendu parler. C'est des dossiers qui sont restés. Qui sont restés ou passés en dessous de la pile, voilà, tout simplement. Voilà ce que j'estime. Pour revenir, sur le social, on a parlé des jeunes, mais il y a aussi les personnes âgées. Et je pense qu'il ne faut pas mettre axer toute la politique sur les EHPAD. Je conçois le département qui puisse faire des économies, parce que la prise en charge quand les personnes vont en EHPAD sont moins importantes. Je pense qu'il faut faire accélérer les dossiers d'APA, parce qu'en gros, il y a 2 mois... pour que ça arrive à son terme, il faut aussi qu'il y ait une
rétroactivité.
Ouais, on va y arriver. Il fait chaud. je veux pas y arriver.
Je le dis à votre place. Voilà. Rétroactivité.
Rétroactivité, pardon. Sur ça, parce que entre la personne dépose le dossier et deux mois où le dossier est validé, la personne a perdu deux mois de prise en charge. Et malheureusement, on s'aperçoit quand on est à la tête de commune, et c'est le travail qu'on a fait au sein du Quatuor, c'est qu'on a des cas où des gens ont déposé un dossier et avant que ce dossier soit finalisé, les personnes sont décédées.
Merci Frédéric Brognard. On accélère, on évoque la fibre optique désormais qui poursuit son déploiement. Le chantier a été lancé en 2011. Hein, les Calvados étaient pionniers même dans le déploiement de la fibre optique offrant donc du très haut débit. 10 ans plus tard, et avec quelques déboires, il faut bien le dire, mais le réseau touche quand même à sa fin. Et pourtant, on a le sentiment que la population a du mal à s'y retrouver. Tous les jours, des habitants demandent si on a accès ou non à la fibre optique, ne savent pas à qui s'adresser, comment et quand ça va fonctionner. Alors, il y a deux théories. Est-ce que l'objectif a été parfaitement atteint, comme l'estiment certains, ou est-ce qu'au contraire, le département a raté une partie du projet, et notamment le volet communication? Valérie Desquennes, on va faire court, toutes et tous, pour qu'effectivement on puisse évoquer les derniers thèmes.
La fibre, c'est un sujet complexe et qui nécessite quand même un petit flashback et des explications. D'abord, il ne faut pas confondre le déploiement de la fibre avec la connexion et la commercialisation. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Le déploiement, on a un taux à hauteur de 75%. C'est le meilleur taux de déploiement si on compare les différents départements de la Normandie. Parce que justement, en 2010-2011, les élus du département ont fait le choix de lancer leur propre réseau public de la fibre. Parce que les opérateurs privés, clairement, ils n'en avaient que pour les grandes communes. Il n'y avait pas du tout d'intérêt pour nos communes rurales. Et c'est dans le cadre de la solidarité territoriale que le RIP a été lancé.
Ce taux, vous le calculez sur le nombre de foyers ou sur le linéaire?
C'est sur le linéaire, c'est le déploiement. Les foyers, on est sur la commercialisation. Et c'est là toute la difficulté aujourd'hui. C'est vraiment là le point dur. C'est que les gens confondent. Et aujourd'hui, en termes d'opérateurs, moi je le vis tous les jours. Tous les jours, j'ai les clients, j'appelle, etc. Enfin, il y a vraiment cette confusion-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se connecter, il peut appeler, maintenant il y a une dizaine d'opérateurs, il y a les petits opérateurs qui ont tout de suite accompagné le département d'ailleurs dans le déploiement de la fibre, et puis il y a les gros opérateurs. Je ne vais pas les citer, on va pas faire de pub à cette antenne. Mais en l'occurrence, le déploiement était prévu sur 3 phases au départ, et la dernière phase, elle devait se terminer en 2030. Sauf que, en 2019, l'État a rebattu les cartes, puisqu'ils ont décidé d'arrêter le cuivre et de basculer à la fibre pour rattraper le retard que la France avait sur les autres pays européens.
Alors, vous me dites aujourd'hui que le projet devait se finaliser en 2019, voire 2030, et vous avez porté un projet lors des dernières élections qui affirmait, vous en tête, et en suivant le président du conseil départemental, que tout le département serait fibré pour 2017.
Alors moi, j'ai repris tout les documents de l'époque, y compris ceux à lesquels où je n'étais pas conseillère départementale, et il y a bien 3 phases qui avaient été calibrées. Et la dernière phase, qui était effectivement les communes les plus éloignées ou les hameaux, elle devait se terminer en 2030.
Il y a eu ces projets la nuit, mais ce qui a été affirmé en réunion publique, notamment à Vassy, c'était tout le département fibré en 2017. J'ai l'article de presse, donc je suis fort avec ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à 35% d'échecs pour le raccordement, au niveau du département, c'est à peu près les chiffres que j'ai obtenus. Et au sein de notre territoire, on est plus à 60%. Donc on l'a vu pendant, malheureusement, les périodes de confinement, ou quand sur un foyer, vous aviez une personne qui était en télétravail et un étudiant et un lycéen, ben, il n'y avait pas assez de débit. Il n'y avait pas assez de débit, c'est vraiment déplorable, parce que quand il y avait des examens qui se faisaient en ligne, si votre étudiant n'a pas le débit suffisant, il est pénalisé par rapport à Caen, il est pénalisé par rapport à Rennes. C'est dramatique, quoi. Et on peut concevoir qu'il y a un retard d'un an ou deux. peut pas concevoir qu'un retard de plus de 4 ans, là, vous avez encore une prolongation. Il suffit pas de mettre des panneaux au bord des routes communes fibrées pour que les gens soient fibrés. Moi, j'en connais très peu qui ont réussi à se fibrer. Alors, les communes ont leur part de tort là-dedans au niveau de l'adressage, mais il y a des adresses qui n'ont pas changé et ça ne fonctionne pas, honnêtement. Honnêtement, c'est une catastrophe.
Le département du Calvados, clairement, il n'a pas fait un aussi bon boulot que ça sur le déploiement de la fibre optique.
Ça appartient à Bon Sentiment, mais ça, pour moi, c'est un raté total.
Raté total.
Alors moi, je ne le considère pas du tout comme un raté total. Clairement, aujourd'hui, le problème, c'est la commercialisation. Et moi, je rencontre tous les jours des habitants qui n'ont du mal à se raccorder quand ils appellent les grands opérateurs, parce que ça ne joue pas leur jeu. Les grands opérateurs, ils veulent continuer à utiliser le cuivre, ça ne les intéresse pas d'aller sur le réseau public, ils doivent payer. Donc c'est aussi la grosse difficulté, c'est les bagarres qu'il y a entre les opérateurs et le prestataire qui nous a mis en place la fibre. Je suis d'accord, lors de la période de confinement, ça a exacerbé, puisqu'effectivement les gens sont restés chez eux, ils avaient besoin de l'informatique et certains ne l'avaient pas. Mais on oublie aussi un bon nombre d'habitants qui eux l'ont et ça se passe très bien et ils en sont très contents. On parle toujours effectivement des personnes qui ne le sont pas.
Un bon nombre, c'est pas un chiffre.
Mais clairement, aujourd'hui, on a des gens qui sont fibrés et ça fonctionne bien. Et si on fait un comparatif avec les autres départements, ben on n'a pas à rougir. Oui, on a encore des choses à faire. Il y a du pain sur la planche, mais on va y arriver.
Je crois qu'a été prévu d'ailleurs le recrutement de 23 médiateurs numériques pour justement expliquer
ça,
un petit
différent.
Peu la mise en place du numérique. Parce que l'enjeu derrière pour les gens, ce qui va les intéresser, c'est de savoir comment ça va marcher.
Là, c'est différent. Les 23 conciliateurs, c'est pour intervenir au niveau des points Info 14, pour venir aider les gens.
Pour accompagner les gens, voilà.
Voilà, exactement, à travailler, à utiliser leur outil numérique.
Céline Fallodéal, parce qu'on a assisté effectivement à une différence de point de vue qui reflète bien, hein, effectivement, finalement, la situation autour de la fibre optique, situation excellente, selon Valérie
Descaines. J'ai pas dit excellente.
Allez, bon boulot, en tout cas, effectué.
J'ai dit qu'on a fait un gros travail et que le réseau public du Calvados n'a pas à rougir par rapport à ses voisins, tout simplement. Mais ça reste encore, effectivement, perfectible, je suis d'accord.
Il y a encore du boulot à faire.
Non, mais quand on est inondé, hein. Que vous ayez 10 cm ou 1 mètre d'eau, on ne se réjouit pas d'avoir 10 cm dans sa maison. On a été bon, on n'a pas été bon, point.
Après, il y a des solutions qui sont mises en place. Voilà.
Céline Fallodéal, on va vous entendre quand même sur la fibre optique. Vous assistez depuis tout à l'heure à cet échange de points de vue entre Valérie Descaines d'un côté et Frédéric Brognard de l'autre. Comment vous l'estimez, vous, ce travail effectué par le département du Calvados dans le déploiement de la fibre optique?
Alors... moi, je suis un peu réservée par rapport à à la fibre optique, parce que on avait un réseau 3G qui était en début de déploiement. On nous a parlé de la 4G, on a commencé à la déployer par endroits, pas partout. La 3G n'était pas finie d'installer partout. Après, on est passé à la 5G, la fibre est venue par là-dessus. Effectivement, comme vous dites, Madame Descaines, les gens n'y comprennent plus rien. Les gens ne savent plus. La fibre, c'est le téléphone, c'est pas le téléphone, c'est que Internet. Mmh. La 3G, c'est quoi? C'est que le téléphone, c'est... Voilà. Donc déjà, on a une population qui... Enfin, les technologies nouvelles, dans un canton comme le nôtre, où la population est quand même un petit peu vieillissante, voilà, les gens sont un petit peu perdus. D'une. De deux, je vous disais... Quand on commence à déployer quelque chose et à investir... Alors effectivement, c'était des entreprises privées qui investissaient pour la 3G, pour la 4G, pour la 5G. Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'au niveau de l'État, on décide, eh ben, on fibre? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu se dire, bon, la 3G, on l'installe partout, on aide à l'installation de la 3G partout, on passe à la 4G, une fois que la 3G est bien installée, on passe à la 4G. Alors éventuellement, pourquoi pas la 4G sur les grandes villes avant, pourquoi pas? Mais là, on a des gens qui sont non fibrés, la 3G n'est pas installée partout. Moi, je rencontre très régulièrement des gens qui me disent, ah non, mais moi, mes fiches de paye, je suis censée les recevoir par Internet, ben, je peux même pas vérifier parce que je reçois pas. Pas suffisamment de débit, pas suffisamment... Voilà, donc là, pour le coup, je ne sais pas quoi vous dire sur la fibre. Je trouve que ça ne se posait même pas au départ pour moi. C'était même pas un projet de départ. Si la 3G et la 4G avaient été bien installées, c'était peut-être pas nécessaire de fibrer la totalité des départements en fibre.
Voilà. Je faisais partie d'une association
rapidement
qui s'appelle Cœur de Fibre, qui était soutenue par une sénatrice socialiste qui prônait le fait de repartir sur les pylônes existants. Là, on a mis énormément d'argent dans ce projet et il suffisait au départ de conventionner et de mettre le fibre en aérien au départ. Et ça, on aurait gagné du temps et
encore
on aurait gagné de l'argent.
Encore faut-il que les privés acceptent. Et c'est la grosse difficulté.
Les opérateurs, à l'époque,
ne voulaient pas.
Après, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète dans l'usage des technologies. Tout d'abord, effectivement, nos aînés ont beaucoup de mal avec Internet, que ce soit la fibre ou que ce soit pas la fibre, c'est pas le problème. C'est qu'ils ont beaucoup de difficultés avec Internet. Et il n'y a pas assez de relais de gens qui sont en capacité d'aller les voir, de leur expliquer. Il n'y a pas assez d'associations qui sont financées
D'où
pour
les
faire
23
ça.
Médiateurs numériques
voilà,
qu'on évoquait 20, tout à l'heure.
Vous imaginez 23...
En complément d'associations ou d'actions de communales. Moi, je vais prendre l'exemple de la commune de Condé en Normandie. On a une association qui elle-même aide les personnes à s'adapter à l'outil numérique parce que c'est pas évident. Puis ça évolue tellement vite que c'est compliqué. Et puis nous, au niveau de la commune, on a dédié une personne qui les samedis matins. Alors bon, malheureusement, avec le confinement, on a dû l'arrêter, mais les samedis matins, proposait gratuitement effectivement des cours informatiques. Les médiateurs qui vont être mis en place dans tous les points Info 14, ça vient en renfort par rapport à ce qui existe déjà.
Céline Chalodéal, juste en quelques petites secondes, vraiment juste pour combler votre léger retard en temps de parole.
Et juste, nos ados, nos enfants, ils utilisent Internet, souvent mal, ils se mettent en danger. Et ça, c'est pareil, la formation auprès des publics mineurs ou des jeunes publics, elle n'est pas suffisante. Et voilà, moi je trouve qu'une technologie qui est lâchée comme ça dans la nature, qui n'est pas humanisée, qui n'est pas relayée éducativement auprès des enfants, etc., c'est dangereux.
Allez, le dernier thème qu'il nous reste à évoquer, puisqu'on est un petit peu en retard, les 20 heures passées sur Radio VFM et VFMradio.fr pour ce débat consacré ce soir donc au premier tour des élections départementales sur le canton de Condé en Normandie. On va parler des collèges maintenant. Le département perd des collégiens chaque année. 3 collèges ont dû fermer leurs portes ces dernières années. Celui de Cabourg, celui de Colombelle, celui de Port-en-Bessin également sur un territoire qui nous est cher évidemment. Doit-on s'inquiéter pour les collèges du territoire? On citera les collèges, j'espère ne pas en oublier, Dumont-d'Urville à Condé, le collège du Sacré-Cœur, mais qui est un collège privé, hein, Valérie Descamps, vous me le confirmez, le collège Val-de-Soulèvre et le collège Anne-Franck de Vassy sur Val-d'Allière. Le Calvados compte 77 collèges, dont 58 publics. Ça représente évidemment là aussi un budget important. Frédéric Brognard, est-ce qu'il faut s'inquiéter, compte tenu de la tendance démographique, sur l'avenir des collèges de votre territoire demain?
Quand on est élu, on s'inquiète, on se doit de s'inquiéter. Hein. Gouverner, c'est prévoir. On a eu une chute... De population au sein du canton de Condé en Normandie. Alors, ce qui n'est pas le cas sur Souleuvre, parce que Souleuvre est tiré par le haut avec la Graverie qui est proximité de Vire et Saint-Martin-Lebzaz qui est une porte d'entrée à la 84, mais sur Condé, un peu moins sur Val-d'Allière, on a vraiment une baisse de population. Bon, il y a eu des investissements qui ont été faits sur le collège de Vassy, donc je ne vois pas une fermeture du collège de Vassy par rapport aux investissements qui ont été faits il y a quelques années. Bon, la bonne nouvelle, c'est que à toute chose malheur est bon, le Covid nous a ramené beaucoup d'habitants sur nos territoires. Et c'est là que les services à leur apporter, dont le numérique, sera important pour eux. Ils sont des gens qui viennent notamment, enfin des néo-ruraux, hein, de Caen, du Havre ou de la région parisienne. Et voilà, ça regarnit nos classes. Je le vois parce que dans les effectifs de primaire, je suis ça. Et au niveau de l'immobilier, il n'y a plus rien à vendre. Donc voilà, c'est là qu'il faut prendre la balle au bon.
Il n'y a pas de collège en danger aujourd'hui. On ne doit pas franchement s'inquiéter. Ou quelque part, aucun collège n'est véritablement à l'abri d'une mesure de fermeture là, dans les 6 ans qui viennent.
On a déjà des distances de transport pour les collégiens qui sont colossales par rapport à l'étendue de nos communes. Je ne vois pas les gens de Condé aller à Val-d'Allière ou de Saint-Pierre-la-Vieille aller à Val-d'Allière ou de Plessis-Grimoux, enfin voilà. Ou de ceux de Bernière aller à...
C'est souvent ce que disaient aussi les territoires qui ont perdu des collèges.
Hein. Ouais, enfin, il y a quand même une proximité et un réseau routier qui est différent là-bas, j'y reviens, mais enfin... Un peu plus de routes et des routes en meilleur état au nord de Caen que chez nous.
Ou alors vous mettrez une 4 voies entre Saint-Pierre-Tarentaine et Val-d'Allière.
Puis une question de relief aussi. Hein. Une question de relief. On voit un peu la peine qu'a le département à comprendre que quand il neige, les routes sont impraticables. Alors je ne dis pas pour les collégiens.
Céline Fallodéal, vous serez vent debout demain à l'Assemblée départementale si l'un des collèges du territoire se retrouvait menacé?
Oui. Non, mais effectivement, ce que dit M. Brognard est vrai. On est sur un territoire qui est très étendu. Si un collège ferme, ça veut dire qu'il y a des collégiens qui vont faire 1h15 de bus le matin. Est-ce que c'est imaginable? Quand on entend les gens en région parisienne dire « c'est hyper dur pour moi, adulte, d'aller au travail et de passer 1 heure dans ma voiture, 1h10 », et là, nous, on le ferait pour des collégiens. Il faut être un petit peu raisonnable. Mais ceci dit, oui, il faut s'inquiéter parce que le ministère de l'Éducation nationale veut rationaliser. Donc, qui dit rationaliser, dit s'il n'y a plus que 300 élèves dans un endroit, tant pis, on ferme et puis on fait un plus gros collège.
En tout cas, c'est pas ce que vous défendrez demain. La rationalisation, au prix d'une fermeture du collège, c'est pas envisageable aujourd'hui.
Non, pour plein de raisons. Un collège à taille humaine, c'est tellement agréable. Madame Desquennes connaît aussi bien que moi le collège de Val-de-Souleuvre. C'est très agréable. Les élèves s'y plaisent beaucoup. Les professeurs sont très contents. On ne gère pas du tout le 380 élèves comme on gère 700 élèves. C'est pas surtout à cet âge-là. Vous voyez des adolescents, 700 adolescents dans un établissement.
C'est le cas de certains collèges, comptent évidemment des centaines d'élèves. Oui. Valérie Desquennes, est-ce que c'est dans les petits papiers du département que de fermer dans les années qui viennent un des collèges, ou est-ce que vous en prenez l'engagement ce soir durant les 6 années qui viennent, ni Béni, ni Vassy, ni Condé ne contraint de fermeture de collège?
Alors clairement aujourd'hui, il n'y a rien et absolument rien à ce sujet. On a des collèges d'ailleurs qui sont très bien entretenus. Il y a plus d'1 million d'euros qui ont été investis lors du dernier mandat, justement pour pouvoir améliorer les collèges, les fibrer, et puis améliorer le quotidien des élèves. Donc non, absolument pas. Il n'y a rien d'envisager sur notre canton.
Aujourd'hui comme demain.
Alors aujourd'hui comme demain, après effectivement, je suis plutôt positive parce que cette crise du Covid nous a ramené quand même un certain nombre d'habitants, des familles. Et là, je pense que c'est vraiment, il faut saisir la balle au bon. Et au contraire, là, on était déjà sur une stabilisation des effectifs dans les collèges. Avec l'arrivée de ces nouvelles familles, on va justement remonter nos écoliers qui seront nos futurs collégiens. Donc je reste tout à fait positive. Et le cas de Condé en Normandie, et notamment du collège du Mont-d'Urville, il est limitrophe, comme vous le savez, avec l'Orne. Et il y a un vrai travail qui est fait entre les services des deux départements pour qu'il y ait une cohérence territoriale de la carte scolaire, pour que le collège de Condé accueille à la fois des Calvadosiens et des Ornais.
La situation propre à Condé, on le disait, c'est d'avoir un collège public, un collège privé. Et l'idée, c'est de continuer à trouver ce bon équilibre entre les deux établissements.
De toute façon, le privé est privé. S'il veut rester ouvert, il restera ouvert.
Mais il y a un bon équilibre jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'un ne nuit pas à l'autre et reste propre.
Non, ça se passe très bien.
On a évoqué, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non.
Sur les collèges, non? Tout est dit.
Tout est dit.
On a évoqué toutes les thématiques. Il reste 2 petits points à évoquer. L'avant-dernier donc de ce débat ce soir, ça concerne votre priorité pour votre territoire demain. En l'espace d'une minute, on va faire un petit tour de table, évidemment. Si vous êtes élu conseiller départemental, quelle sera votre première priorité à défendre à l'Assemblée départementale demain? Céline Fallot-Déal, c'est à vous.
Alors, notre pays n'est pas très doué pour ça, et je trouve ça vraiment terriblement dommage. La prévention, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière sociale, on est en retard par rapport à plein d'autres pays, et on ne sait pas faire, et c'est vraiment dommage.
Donc ça, c'est la priorité?
Donc pour moi, c'est la priorité, et en particulier, la détection précoce à l'école, même avant, si c'était possible, à l'école maternelle et primaire, des souffrances psycho-affectives des enfants. Ce serait pour moi un bon début, déjà, parce que plus on détecte tôt des difficultés de cet ordre-là chez un enfant, plus on lui donne tôt des repères, des aides, etc., et plus c'est facile d'accéder à la résilience et de s'en sortir. Et donc, renforcer la présence des professionnels de la PMI, Alors, je sais bien que là, pour le coup, si on parle des psychologues scolaires, ça n'est pas du domaine de département. Mais ceci dit, moi, ça me paraîtrait très important. Là, actuellement, si je ne m'abuse, il y a une psychologue scolaire pour 12 établissements scolaires, si je ne me trompe pas, sur... Nécessairement trop peu.
J'espère qu'elle prend du travail.
Les plus petits établissements scolaires du secteur ont 140 élèves, x 12.
Voilà, on est sur l'éducation nationale et malheureusement, oui. on a pas mais du la tout PMI, la main dessus.
Mais la PMI, oui, ça c'est sûr. Le conseil départemental. Et puis, ça fait des années que, enfin voilà, depuis que j'ai fait mes études pour être EDUXP, j'ai travaillé sur le dossier de rapprochement de l'éducation nationale et de l'éducation spécialisée. Ce serait pas idiot que des éducateurs aguerris puissent être présents dans les écoles pour que les enseignants leur disent, bah voilà, ce môme-là, on voit bien qu'en ce moment, ça va pas. Est-ce que vous pourriez le recevoir à raison de une demi-heure, trois quarts d'heure, plusieurs fois là, dans les semaines qui viennent?
Ça fera partie de vos propositions. En tout cas, demain, les premières que vous avancerez au sein de l'Assemblée départementale, si vous êtes élu, vous qui serez donc, on l'a bien compris, conseillère départementale à plein temps, au-delà de votre mandat de conseillère municipale à Soulèvre en Bocage. Valérie Desquennes, si vous êtes, vous, réélu demain, est-ce qu'il y a un nouveau projet comme ça, le premier, allez, que vous amènerez sur la table de Jean-Léonce Dupont?
Alors, il n'y a pas de nouveau projet. Aujourd'hui, il est extrêmement important de continuer toute la démarche sociale. C'est quand même notre priorité au niveau du département. Donc moi, mon souhait, c'est effectivement au sein de notre canton, et malheureusement on a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui sont en souffrance et il faudra continuer à le travailler. Des dossiers qui sont en cours devront aboutir, et malheureusement avec la crise du confinement, ça a été retardé. Je pense à la gendarmerie de Condé qui aurait dû voir le jour cette année et qui verra le jour que l'année prochaine. Voilà, la gendarmerie n'était pas, je dirais, disponible pour valider tous les plans du département, mais c'est comme ça. Et puis ensuite, nous avons un sujet phare qui pour moi est important, notamment sur l'intérêt du territoire et de notre canton, c'est développer le tourisme vert. Aujourd'hui, on a un canton qui est magnifique, qui a énormément de chemins de randonnée, qui a des routes aussi, mais on peut développer justement tout ce qui va être vélo, piste cyclable à travers notre canton, et ça permettra effectivement de relier tout ce qui a déjà été fait dans la politique du plan vélo du département.
Ça fera partie de vos priorités que vous défendrez avec Régis Deliquer, qui lui aussi est sur un territoire ô combien touristique avec le viaduc de la Soulèvre, mais pas que, évidemment.
Et je laisserai une autre priorité à mon voisin d'en face, puisqu'il va certainement en parler, mais je rebondirai peut-être dessus. Ce sont les routes qui, effectivement, devront aussi aboutir.
Eh bien, ça fera partie peut-être de votre dernière intervention avant la conclusion, puisque ce débat touche à sa fin. Frédéric Brognard, il y a beaucoup de priorités, on l'a bien compris, si on en croit vos propos, parce qu'il y a encore plein de choses à faire au département du Calvados. Mais allez, si vous devez en sortir un et en mettre un au-dessus de la pile demain, vous êtes un élu qui a de la gouaille, vous le disiez vous-même tout à l'heure, vous allez vous faire entendre sur quel dossier en premier?
Non, je reviens, vous avez compris mes propos sur le numérique, voilà, pour les télétravailleurs, pour le développement des entreprises, pour matcher les gens qui sont arrivés sur notre territoire. Vous savez, quand vous êtes élu, les gens viennent vous voir pour s'installer et vous demandent s'il y a une école. Avant, c'était la première question. Aujourd'hui, ils demandent s'il y a du réseau. Voilà le monde dans lequel on vit. Donc les gens qui sont arrivés sur notre territoire, si au bout de 6 mois, ils ont des difficultés avec leur entreprise, si leurs étudiants ont des difficultés, ils vont partir. Et là, le département va avoir une aubaine avec ça, c'est qu'il va récupérer des droits de mutation à des hauteurs qu'il n'a jamais touchées. Donc il faut absolument profiter de l'augmentation des finances pour enfoncer le clou sur le développement numérique, pour mettre des gens en place sur les cantons. Il n'en faut pas 23, il en faut un par ancien canton historique, des contrats sur un an, sur 2 ans. Mais voilà.
Ça sera au département de le faire, ça.
C'est au Le département a souhaité se saisir de cette compétence.
Bon, Val d'Allier sera fibré dans les 6 mois suivant votre élection. C'est l'engagement que vous prenez ce soir. C'est presque le cas, d'ailleurs, quand même. On a plutôt bien avancé.
Il y a beaucoup de panneaux installés.
Mais ça ne marche pas partout. On l'a bien compris. Les routes, ça fera partie aussi des priorités ou pas? Valérie Desquennes, vous a tendu la perche. Vous la saisissez ou pas?
Les routes, ça fait partie des priorités. Mais après, tout dépend de la place qu'on prend au sein du département. Aujourd'hui, il y a une majorité départementale où, pas dire qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits, mais ça va de DLR en passant par l'UDI, en passant par le MoDem, en passant par le LREM, voire anciens radicaux de gauche. Enfin, on ne sait pas trop comment ça se passe, on ne sait pas trop qui tire les ficelles. Et on verra un peu ce que sera la nouvelle majorité départementale.
Vous en serez dans la majorité départementale si vous êtes élu?
Si je suis élu, oui, je le dis.
Donc vous aurez du mal à vous opposer sur tous les dossiers ou à dire que Jean-Léonce Dupont n'a rien fait si vous êtes à ses côtés demain?
Bah si, j'ai toujours une liberté de penser, hein.
Céline Fallot-Déal, votre priorité, vous l'avez évoqué. Valérie Desquennes, vous vouliez répondre aux routes ou pas avant de conclure?
Oui, je voudrais simplement rebondir sur la fibre. C'est effectivement votre projet, sauf que la fibre, dans quelques temps, elle va être aboutie, puisqu'aujourd'hui tout est déjà lancé, tout est fait. Donc,
il arrivera trop tard, Frédéric Brognard, s'il est élu.
Non, il pourra toujours, s'il veut, effectivement, pousser certains sujets, certains projets. Après, aujourd'hui, la fibre, elle est présente, elle est lancée. Certes, elle ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait, ça c'est vrai, mais elle est là. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un vrai projet, c'est juste une finalisation de ce qui a déjà été lancé. Non pas par moi au niveau du mandat d'ailleurs, mais par les autres candidats, candidats ou élus de l'époque. Voilà. Et au niveau des routes, effectivement, sur Condé, même si vous n'entendez pas, nous travaillons. Et aujourd'hui, une réunion publique aurait dû avoir lieu en décembre, comme elle avait eu lieu d'ailleurs à Thurie en fin 2019. Et malheureusement, cette réunion n'a pas pu se tenir pour cause de Covid, où 4 schémas devaient être présentés justement pour le contournement de Condé. On a continué à travailler avec les acteurs locaux, avec les entreprises, avec la région, qui effectivement est partenaire avec le département sur ce tronçon Canflers, mais partenaire pour l'adaptation et la sécurisation de la route et le contournement, pas pour la deux fois deux voies.
C'est noté, merci Valérie Descannes pour ces précisions. Eh bien, c'est l'heure de conclure ce débat. Alors, comme indiqué au début de celui-ci, vous allez avoir tour à tour une minute pour vous adresser à vos électeurs potentiels qui sont appelés donc aux urnes le 20 juin pour le premier tour des départementales. C'est le fameux moment de la conclusion. Et Valérie Descannes, eh bien, c'est à vous de commencer.
Merci. Eh bien, écoutez, je dirais que nous sommes des élus de terrain avec Régis, Patrick et Vanessa. Nous croyons dans notre potentiel au niveau du territoire. Nous aimons notre territoire et nous le soutiendrons coûte que coûte. Le bilan d'ailleurs du canton des 6 dernières années est quand même positif puisqu'on a plus de 10 millions d'euros qui ont été investis en aide. Que ce soit au niveau des communes, au niveau des associations, au niveau des collèges, au niveau des agriculteurs. Et je ne parle pas du volet social. Donc notre seul engagement, c'est de travailler en toute honnêteté pour le bien de nos habitants. Aussi, je conclurai en disant, faites le choix d'une équipe unie, présente à vos côtés au quotidien, active qui agira avant tout pour vous. Et n'oubliez pas, voter, c'est choisir les projets à venir pour notre canton et notre département. Un canton qui vote est un canton fort, alors pensez aux procurations.
Merci Valérie Descannes, vous avez parfaitement respecté le chronomètre. Hein. 1 minute et 3 secondes pour la conclusion. Je vous mets au défi de faire aussi bien, Frédéric Brognard. C'est à vous de conclure.
Les élections départementales ne sont pas des élections nationales, donc vous votez pour des gens que vous connaissez. Avec mon équipe, Frédéric, Alexandre, Annabelle et moi, nous sommes sur le territoire depuis des années, au sein des associations, au sein des conseils municipaux, au sein des mairies. Nous porterons vos voix, vos dossiers, défendrons les particularités du territoire, hein, le relief, l'éloigné de Mont-de-Camp. Et le 20 juin, déplacez-vous simplement pour voter, pour que s'exprime la démocratie, pour que s'exprime nos différences, notre ruralité.
Merci Frédéric Brognard. Eh bien, la conclusion de la conclusion, c'est à vous qu'elle appartient. Céline Fallodéal, vous avez également 1 minute pour vous adresser à vos électrices et électeurs potentiels de ce canton de Condé en Normandie.
Alors bien évidemment, Colin, Marilyn, Elliot et moi, nous appelons les électeurs de gauche et de l'écologie à voter pour nous. Mais surtout, je voudrais m'adresser aux abstentionnistes. Si vous n'allez pas voter, au mieux, la politique du conseil départemental sera la même. Donc, de mon point de vue, de notre point de vue, manquant d'innovation et moins disant socialement. Au pire, vous serez représentés par des élus aux idées douteuses, voire nauséabondes, qui nous traitent de pignouf, accessoirement. C'est agréable, j'adore. Et puis, si vous votez pour nous, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise.
Merci Céline Fallodéal pour la conclusion. Eh bien, c'est la fin de ce débat. Ce débat qui était consacré ce soir au premier tour des élections départementales sur le canton de Condé en Normandie. On voulait vous remercier, vous trois, Valérie Descannes, Céline Fallodéal et Frédéric Brognard, d'avoir accepté de débattre ce soir. Et merci également pour la bonne tenue de ce débat. Je rappelle aussi que le binôme du Rassemblement National était bien sûr convié, mais qu'il a décliné l'invitation. Prochain débat sur Radio VFM, eh bien, ce sera dans une semaine avec le débat des départementales consacré au canton de Vire-Normandie, le canton de Vire-Saint-Sever. Les élections départementales départementales. Ce sera les 20 et 27 juin, en même temps que les élections régionales. Radio VFM vous proposera bien évidemment deux grandes soirées spéciales. Enfin, sachez que le débat de ce mercredi est à retrouver en podcast sur notre site internet vfmradio.fr dès ce soir. Si vous voulez réécouter en boucle vos interventions respectives, vous pourrez accéder à vfmradio.fr dès ce soir. Merci à Quentin Radic qui a assuré parfaitement la réalisation de cette soirée. Merci également à Marie, à Ingrid Varenne, à Nathalie Briard, à Régis Picot. Toute l'équipe s'est mobilisée ce soir en coulisses pour surveiller notamment le temps de parole des différents candidats. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci à vous également de nous avoir suivis ce soir. Belle soirée à toutes et à tous sur Radio VFM et à mercredi prochain pour un nouveau débat consacré à ces élections départementales 2021.